Couleur FM, Espace Public, Thierry Borde, bonjour. Voilà, nouvelle édition d'Espace Public, édition qui sera diffusée le mois de décembre, la première quinzaine de décembre 2016. Nous continuons notre découverte, notre analyse des paysages politiques du Nord-Isère et de l'Isère. Après avoir découvert le paysage berjalien, nous passons un ou deux échelons au-dessus et puis nous allons découvrir le département, le conseil départemental, car aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental. Bonjour monsieur Barbier.
Bonjour.
Merci d'être venu parmi nous. Alors voilà, nous avons 7 heures d'émission pour que vous nous fassiez découvrir votre politique au niveau du département. Alors le département, nombreux sont ceux qui avaient prédit et peut-être même souhaité leur disparition au département. Avec la loi NOTRe, donc sur la nouvelle organisation territoriale, les départements ont été certainement largement évidés de certaines prérogatives. Mais ils vivent encore. Avec les communes, ils sont les socles historiques des fonctionnements démocratiques et administratifs français. Ils donnent une cohérence à des territoires à dimension humaine qui ont su, avec le temps, se forger des identités et des cultures communes fortes. Alors, tandis que les régions atteignent désormais la taille de petits pays, alors que les métropoles urbaines se détachent du reste du paysage local, le département reste et restera sans doute l'échelon intermédiaire de référence pour tous les territoires ruraux. L'Isère est un très grand département. Il offre des territoires très variés, des zones urbaines, semi-urbaines, rurales, montagneuses, touristiques. Il fait jonction entre la métropole grenobloise et la métropole lyonnaise, qui ne cesse de s'étendre vers chez nous, vers le Nord-Isère. Monsieur Barbier, depuis la loi NOTRe, votre travail semble beaucoup consister à imaginer les solutions les plus pertinentes pour réaliser les transferts de compétences inscrits dans la loi vers les différentes autres collectivités locales. Avec la métropole grenobloise, avec la région, les accords vont bon train et font suite, on l'imagine, à quelques mois de négociations. Alors voilà, pour commencer, Jean-Pierre Barbier, alors pour rappeler, vous êtes député de l'Isère, élu dans la 7e circonscription, vous êtes conseiller départemental et président du conseil départemental. Alors voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière assez simple, pour qu'on y comprenne quelque chose, ce que la loi NOTRe a changé au niveau du département ?
Mais écoutez, je crois que vous avez fait un bon résumé de ce qu'est la loi NOTRe et de ce que sont les départements. Simplement, pour simplifier, pour expliquer ce qui s'est passé avec cette loi NOTRe. Je crois que les départements sont sortis renforcés par la loi NOTRe parce que l'extension des régions a montré que la proximité restait une nécessité. La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 7,5 millions d'habitants et les départements restent des structures de proximité nécessaires à l'exercice des compétences de solidarité, mais aussi des compétences routes, des compétences collèges et bien d'autres. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un certain nombre de compétences ont été transférées à la métropole et à la région. Aujourd'hui, ça y est, les négociations sont faites, les commissions de transfert de charges à la Chambre régionale des comptes ont été actées la semaine dernière. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de savoir comment ça va se passer sur les mois et les années à venir. Alors tout d'abord avec la métropole, on a transféré les voiries métropolitaines, ce qui représente à peu près 10% de notre réseau total, plus un certain nombre de compétences sociales comme le fonds d'aide aux jeunes, comme la prévention spécialisée, ou encore sur la culture, quelques subventions, et sur le tourisme, les chemins de randonnée. Donc si vous voulez, sur la métropole, on a un transfert de compétences qui reste marginal, puisqu'il représente 18 millions d'euros sur le budget total du département, qui est d'1,5 milliard. Donc vous constatez que sur la métropole, ce transfert est tout à fait marginal et ne remet pas en cause les compétences du département. Sur la région, les choses sont différentes, puisque la région maintenant devient chef de file pour ce qui concerne l'économie. Donc le département ne devrait plus assumer ses compétences économie, mais la loi NOTRe, qui est une loi, à mon avis, mal écrite, fait en sorte que la région doit assumer ses compétences. Par contre, l'argent n'a pas été transféré. Donc les départements doivent bien continuer, d'une manière ou d'une autre, à intervenir dans le domaine économique, que ce soit pour le soutien à Minatec, que ce soit pour le soutien au cluster, ou que ce soit sur les zones économiques comme Inspira sur le Roussillonnais. Mais là, on est un entre-deux. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais si jamais la région devait prendre en charge ce que fait le département de l'Isère aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros, et ces 10 millions d'euros, la région ne les a pas. Donc nous sommes dans un entre-deux, et pour le moment, le département continue d'agir sur l'économie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point et le deuxième transfert qui, lui, est important, c'est le transfert des transports. Aujourd'hui, transport scolaire, le transport interurbain doit être transféré, de par la loi NOTRe, au 1er janvier 2017 à la région. C'est ce que nous avons fait. Ça représente un transfert important, hein, de l'ordre de 88 millions d'euros. Mais la région, qui, elle, doit assumer une fusion avec l'Auvergne, qui se retrouve avec 12 départements, n'a pas la capacité aujourd'hui d'organiser ses transports. Donc, au 1er janvier 2017, la région nous déléguera la gestion du transport interurbain et du transport scolaire. Donc, si vous voulez, en nous rendant les sommes que nous lui avons données. Donc, au final, pour 2017, 2018, 2019 et jusqu'en 2022, puisque c'est l'accord que j'ai trouvé avec Laurent Wauquiez, c'est le département qui continuera d'assumer la compétence transport. Donc au final, tout ça pour ça, un transfert de compétences marginale à la métropole et une compétence transférée à la région qui nous la redélègue. Donc au final, le département garde son importance, vous l'avez dit, et je crois que c'est pas fini.
Donc voilà, donc c'est une sorte de contournement finalement de la loi NOTRe, mais qui permet aux usagers, c'est, notamment des transports, de s'y retrouver.
C'est pas un contournement de la loi NOTRe, si vous voulez. La loi NOTRe le marque de manière tout à fait explicite que la région qui recevra la compétence pourra
la redéléguer.
C'est écrit dans la loi, c'est pour ça que c'est une loi qui, je le redis, est mal écrite, parce que elle permet ce genre de choses. Donc en fait, quand on ne veut rien changer, on écrit ça.
Parfait. Pour les transports, alors, vous avez parlé des finances. La loi NOTRe, c'est aussi, pour les départements, une baisse de dotation.
Oui, alors ça, c'est pas la loi NOTRe. Ça, c'est la loi de finances qui fixe les dotations aux communes et aux départements. Le gouvernement, depuis quelques années, a imposé les recettes des communes. C'est une imposition sur les recettes réelles des communes, c'est même pas une baisse de dotation. Certaines communes doivent payer comme un impôt, comme un particulier, une somme à l'État. Et pour le département, vous savez que dernièrement, le président de la République au congrès des maires a dit, bon, cette année, on décalera la baisse de dotation que vous évoquez. Mais comme on est dans un système de vases communicants, il fallait bien retrouver l'argent. Et c'est les départements qui seront mis à contribution cette année en voyant baisser encore un peu plus leur dotation. Et on va perdre 200 millions d'euros, ce qui pour le département de l'Isère représente encore 5 millions d'euros. C'est des équations budgétaires qui deviennent difficiles à résoudre.
Voilà. Alors comment le département fait-il pour continuer à soutenir l'économie, justement, par exemple?
Alors le département ne peut plus agir directement sur l'économie, même s'il continue de le faire par des contrats qui sont en cours. Mais l'économie, c'est partout. Le département, c'est la construction des infrastructures, la construction des routes, la mise en œuvre du très haut débit, parce que les entreprises en ont besoin. Le département est un aménageur de territoire, et quand vous aménagez le territoire, vous faites en sorte que l'économie puisse se développer. C'est un rôle qui est essentiel et qu'aucune autre collectivité ne pourrait remplir comme le remplit le département.
Voilà. Et donc là, c'est notamment ce qui motive votre grand plan de relance de l'économie, qui va se baser justement sur cette nécessité d'investissement.
Alors c'est encore une autre action du département. Il y a le département qui agit pour faire un cadre qui permet le développement de l'économie, et puis il y a le département qui investit. Et quand vous investissez, quand vous construisez des routes, quand vous construisez des collèges, quand vous rénovez des collèges, quand vous intervenez dans différents domaines, vous créez de l'investissement. Et quand vous créez de l'investissement, vous créez de l'emploi, et particulièrement dans des secteurs comme les bâtiments et travaux publics. Bâtiments et travaux publics qui sont très implantés sur notre département. Ça a été l'objet du plan de relance de 100 millions. 10 millions d'aides, en gros, apportées aux communes et intercommunalités dans un premier temps. Tout de suite, ça a déclenché plus de 110 millions d'euros de travaux, avec 90% des entreprises iséroises qui sont intervenues, et des petites entreprises. Donc là, pour le coup, on a soutenu l'économie. On déclenche maintenant un deuxième étage du plan de relance, avec 20 millions accordés sur des projets structurants sur l'ensemble des territoires de l'Isère. Et le département, lui, investit depuis que nous sommes élus, l'année dernière et cette année, 320 millions d'euros par an, 320 millions d'euros, ce qui représente 100 millions d'euros de plus que ce que faisait la précédente majorité. Donc, si vous voulez, c'est aussi notre volonté de relancer l'économie par l'investissement.
Voilà, et ce sont donc aussi des sommes qui ont des effets de levier. Vous le disiez, 10 millions
voilà,
génèrent
si vous
100
voulez, on,
et quelques millions
sur
de
la
travaux.
Première partie du plan de relance, on a donné, on a apporté 9 millions d'euros de subventions supplémentaires aux communes en disant, bon voilà, si vous déclenchez les travaux tout de suite, vous avez 10% de plus de subventions. Donc les communes ont joué le jeu et on peut les remercier parce que c'est grâce aux communes et aux intercommunalités qui ont joué le jeu qu'on a pu déclencher plus de 100 millions d'euros de travaux. Donc 9 millions investis, 100 millions d'euros de travaux effectués. Donc vous voyez, c'est un véritable effet de levier. Moi, c'est ce que je recherche à chaque fois que le département investit, aide ou subventionne. C'est cet effet levier. On met un euro et on espère en récupérer plus pour l'économie, pour l'emploi et pour les entreprises.
Voilà. Et c'est donc en tout plus de 640 chantiers, je crois, qui ont été lancés
voilà,
l'année dernière.
Voilà, c'est 640 chantiers qui ont été lancés l'année dernière et encore cette année, qui représentent donc cette somme de travaux importante. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce sont des entreprises locales, iséroises, qui ont eu ces marchés. Parce que la difficulté, quand vous faites un plan de relance massif, il faut être prudent dans vos appels d'offres, parce qu'il ne s'agit pas non plus que ce soit de grosses entreprises venant de départements voisins, voire même de l'étranger, qui raflent les marchés et qui ne créent pas d'emplois sur le territoire.
C'est ça. Et alors, pour recentrer un petit peu notre propos sur notre territoire de Couleur FM, sur le seul territoire de la Porte des Alpes, il me semble que c'est un petit peu plus de 70 chantiers qui ont été lancés pour un petit peu plus de 20 millions d'euros.
Voilà, c'est ça. Le territoire de Porte des Alpes est un territoire dynamique, hein, avec une économie, une industrie qui se développe, des communes aussi qui se développent, qui ont besoin d'équipements et qui ont pu bénéficier pleinement du plan de relance.
Très bien. Alors, la question qui se pose finalement, on a parlé des baisses de dotation, des difficultés un petit peu à gérer ces changements. Comment le département conserve-t-il cette capacité à investir malgré tout ?
Alors, on a la chance, il y a deux choses. On a la chance d'être un département qui reste un département dynamique avec une dynamique des taxes qui sont perçues sur les ventes de terrains et de biens immobiliers, ce qu'on appelle les DMTO. Les DMTO sont en progression, ça fait partie de nos recettes. Ensuite, en termes de fiscalité, nous avons fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité au niveau départemental, mais il y a une progression légère de cette fiscalité. En tout cas, elle ne se retire pas. Donc tout ceci maintient en partie nos recettes, même si les dotations baissent. Et puis surtout, nous essayons et nous faisons des économies de fonctionnement pour la structure. C'est le projet d'administration que nous avons mis en œuvre dès mon élection l'année dernière. C'est ce qui se poursuit par une meilleure organisation de nos services, par l'apport du numérique, par une simplification de nos procédures. Moi, j'ai demandé à tous nos services de simplifier les procédures, que ce soit pour les aides, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Tout n'est certainement pas encore parfait, mais je veux qu'on aille vers ce sens de la simplification administrative pour nos concitoyens.
Alors, les personnes âgées, vous les avez citées. On peut en profiter pour passer à une autre partie, une autre compétence prérogative du Conseil départemental, qui est l'action sanitaire et sociale, dans termes génériques, et qui va notamment concerner les personnes âgées. C'est une politique que vous avez envie de développer.
Oui, alors concernant les personnes âgées, si vous voulez, le département dans le champ de la solidarité, il y a vraiment trois grands champs. Il y a le champ des personnes âgées, le champ des personnes handicapées et le champ de l'enfance en danger. Concernant les personnes âgées, ma volonté, et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, c'est de faire en sorte que partout en Isère, les gens soient accueillis de la même manière dans des établissements qui offrent un service minimum de confort. En tant qu'élu, on fait souvent des inaugurations. Et ces inaugurations, on voit toujours ce qui se fait de mieux, les meilleures conditions pour les personnes âgées. Moi, je fais aussi des visites. Et quand je fais ces visites, je m'aperçois parfois que certains établissements mériteraient d'être remis à niveau. Donc, je rencontre la semaine prochaine les directeurs d'établissements pour qu'on fasse un point, un audit, de voir quelles sont les conditions d'accueil des personnes âgées sur le département, quels sont les lieux où il faut faire un effort immédiatement pour ramener les choses dans des conditions correct, acceptable pour les personnes âgées et pour leur famille. C'est pour ça qu'au budget 2017, nous inscrirons une somme de 10 millions d'euros pour permettre ces travaux d'urgence, pour ramener les choses à niveau, pour veiller aussi à ce que le prix de journée soit à peu près équivalent sur l'ensemble du département. Il n'est pas normal que sur certains secteurs, la journée soit 45 euros et sur d'autres secteurs, elle soit 65, voire 70 euros, alors que le service n'est pas forcément en rapport avec le prix. Donc, si vous voulez, le département, par l'aide qu'il peut apporter, a le moyen de réguler tout cela. C'est ce que je vais tenter de faire avec les directeurs d'établissement, parce que ça aussi, c'est un changement de méthode. Je souhaite, sur tous ces champs du social et les autres d'ailleurs, travailler en partenariat avec les acteurs. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser.
Alors, l'aide sociale, c'est aussi vers les jeunes. Nous enregistrons cette émission, nous sommes le mardi 29 novembre. Et malheureusement, ce matin, nous avons appris que cette nuit, un incendie à Bourgoin-Jallieu a ravagé un foyer d'accueil pour jeunes et que le département participe à financer, à soutenir.
Oui, bien sûr. Alors, ça fait partie du troisième champ des solidarités du département. C'est l'accueil de l'enfance en danger, hein. C'est l'action sociale en direction de l'enfance. Sur le sujet de cet incendie qui s'est déclaré cette nuit à Bourgoin, on ne connaît pas l'origine. On peut se réjouir, c'est qu'il n'y a pas de victimes. Donc il y a des dégâts matériels. Je vais aller me rendre compte sur place, voir les éducateurs qui font un travail formidable, un travail difficile, parce que malheureusement, les conditions de vie, les conditions sociales font qu'on accueille des jeunes de plus en plus en difficulté. Et vous savez, c'est une mission toute particulière et importante pour le président du conseil départemental que je suis, parce que ces enfants sont confiés au département, oui, mais ils sont confiés au président. C'est-à-dire que c'est moi qui suis responsable de ces jeunes. Donc je prends ça tout à fait au sérieux, tout à fait à cœur. Donc je vais aller regarder ce qui s'est passé. On a aussi au niveau du département, on travaille avec des associations qui gèrent ces établissements. On travaille en partenariat, mais pour l'ensemble des champs du social d'ailleurs, pas uniquement sur l'aide sociale à l'enfance, le département va mettre en place des cellules de contrôle pour savoir ce qui se passe dans les établissements. La confiance n'exclut pas le contrôle, et je crois qu'il est normal que l'on sache exactement les points d'amélioration, les points de tension aussi, et qu'on puisse être en accompagnement des structures qui parfois sont en difficulté.
Alors on va peut-être d'abord et avant tout, parce qu'on arrive à peu près à la moitié de cette émission, faire une petite pause musicale et on se retrouvera juste après. Thank you. Voilà, nous sommes bien sûr Couleur FM sur le 97.1 FM dans le Nord-Isère et nous rencontrons aujourd'hui dans cette émission Espace Public Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental. Merci encore de nous avoir rejoint à Couleur FM, monsieur Barbier. Nous continuons découverte du département, de ses politiques, et nous étions en train de parler de la compétence sanitaire et sociale. Nous avons parlé des personnes âgées, des jeunes, et il reste un point très 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 fort de cette politique, avec notamment des mesures assez fortes que vous avez annoncées récemment, qui concernent donc le RSA, le Revenu de Solidarité Active, et ses bénéficiaires.
Voilà, alors des mesures fortes qui ont fait couler beaucoup d'encre ou beaucoup de salive, mais je crois que il faut sur ce sujet raison garder. Qu'est-ce qu'on propose tout simplement? C'est de dire que les gens qui sont en situation de grande difficulté, qui perçoivent le RSA, notre volonté, ma volonté, c'est de faire en sorte qu'elles retrouvent un emploi le plus rapidement possible, parce que c'est la clé d'entrée dans la société. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces populations, c'est pas du tout le sujet, mais simplement, dans ce que nous souhaitons mettre en place sur la réciprocité, une réciprocité qui sera basée sur le volontariat. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit aux bénéficiaires du RSA, simplement les motiver et de leur dire, d'aller les trouver et de leur dire, nous avons besoin de vous, la société a besoin de vous, vous êtes bénéficiaire du RSA, vous avez des compétences, on peut vous former, on peut vous aider pour que vous retrouviez du travail et que vous retrouviez votre place dans la société. C'est simplement ça qu'on cherche à faire. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer l'action qu'on peut avoir. Bien sûr, on sait qu'il y a des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi. Bien sûr qu'on sait qu'avec ces gens-là, ce sera très difficile. Mais il y a des moyens, avec la culture, par exemple, de retravailler leur image. Mais il faut qu'ils aient la volonté. Il faut qu'on leur demande d'avoir cette volonté. Bien souvent, moi, quand je rencontre des personnes en charge des bénéficiaires du RSA, je leur dis, mais est-ce que vous leur avez posé une fois, un jour, la question de savoir s'ils voulaient travailler? Malheureusement, parfois, on me répond non. Ben si, il faut leur demander s'ils veulent travailler.
Le système ne le permet pas.
Le système.
D'affirmer qu'on ne veut pas travailler. Qu'on ne veut pas travailler.
Ouais, mais si on ne vous pose pas la question, vous ne répondez pas. Vous êtes là, vous bénéficiez d'une allocation, vous ne demandez rien. Moi, ce que je veux, c'est qu'on rende la parole aux bénéficiaires du RSA. Ils ont le droit de travailler, ils doivent travailler, on doit les aider à retrouver, et c'est le but. C'est vraiment le but. Et en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite faire. Et je dirais, au-delà de ce que je peux entendre, c'est justement la prise en considération, c'est rendre la dignité à ces gens-là, que de leur dire, on a besoin de vous. On a besoin de vous, la société a besoin de vous. On ne peut pas se contenter de verser une allocation, d'écarter ces gens-là du champ du travail en se disant « bon, ben voilà, le problème est réglé, ils touchent une allocation, on n'en parle plus ». Moi, c'est vraiment pas ma volonté. Après, ce qui a posé question, c'est les contrôles qu'on met en place sur les bénéficiaires du RSA. Mais là, une nouvelle fois, toute la caisse d'allocation familiale qui verse des prestations fait des contrôles. Les services des impôts font des contrôles.
Contrôlez-vous ?
Alors, on contrôle simplement que le bénéficiaire remplit bien les conditions pour bénéficier du RSA. C'est un simple contrôle qui fait aussi, et quand il sera complètement mis en œuvre, qui fera en sorte que celles et ceux qui touchent le RSA ne seront plus taxés de fraudeurs. Parce que ça aussi, le doute qui est entretenu parfois de dire que les gens fraudent, ben on peut toujours le dire quand on n'a pas la preuve que non. Mais à partir du moment où vous faites les contrôles, on pourra affirmer que celles et ceux qui touchent le RSA le touchent dans des conditions normales. C'est aussi ça. Et puis quand quelqu'un fraude, quand quelqu'un est malhonnête, et bien souvent on pense que c'est les plus pauvres qui fraudent, et moi je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce sont parfois des gens qui ont d'autres revenus, qui perçoivent en plus le RSA, c'est aussi cela qu'il faut traquer. Donc vous voyez, il n'y a pas de volonté de stigmatiser, d'enfoncer, bien au contraire. C'est simplement rendre la dignité à ceux qui touchent le RSA et leur dire qu'on a besoin d'eux et qu'il faut qu'ils réintègrent le monde du travail, parce que c'est essentiel.
Voilà, et pour peut-être, parce que tous nos auditeurs ont peut-être pas lu les nombreux articles qui sont parus autour de ces mesures, le principe de la réciprocité est relativement simple, c'est-à-dire que c'est sur le mode du volontariat, le bénéficiaire du RSA a le droit de suivre une formation que vous rémunérez d'ailleurs un petit peu plus.
Voilà. C'est ça. Et ça, c'est une convention qu'on a passée avec la région Rhône-Alpes-Auvergne. On a identifié un certain nombre de secteurs en tension qui a besoin, des secteurs qui peuvent embaucher, où il y a du travail. Là, ce qu'on se donne comme challenge, c'est qu'on va trouver des gens qui ont le RSA. On leur dit, voilà, vous pouvez suivre cette formation sur un secteur en tension. Vous faites 6 mois, 8 mois, 3 mois de formation. Et à l'issue de ces 3 ou 6 mois de formation, vous aurez un travail. Et on rémunère la formation. Écoutez, moi, on peut critiquer le principe, mais si on arrive... bien sûr, ça ne représente que 200 personnes. Et si on arrive à donner du travail à 200 personnes, ben pour moi, ce sera un vrai succès et ce sera une vraie réalisation concrète.
D'accord. Alors, seulement 200 personnes, parce que ça reste, pour l'instant, expérimental.
Voilà. Pour le moment, il faut expérimenter. Il faut voir comment tout cela fonctionne, voir si ça marche. Vous savez, moi, depuis un an et demi au département, j'agis avec pragmatisme. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos partenaires, avec ceux qui savent. On essaye. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fait autrement. On a mis d'ailleurs en place, au niveau du département, un service d'évaluation de nos politiques publiques. Parce que bien trop souvent dans notre pays, on met en place des politiques, on ne se préoccupe pas de savoir si ça marche ou si ça marche pas, et on continue pendant des années, et pendant des années, parfois, on continue et on reproduit les mêmes erreurs. Moi, ce que je veux absolument, c'est qu'on mette en place des politiques, qu'on les analyse, et si ça ne fonctionne pas, eh ben, on change de direction.
Alors, très bien. Alors, comme le temps passe, j'aimerais qu'on parle, on a encore des milliers de choses à aborder, mais on n'aura pas le temps. Mais alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'aménagement et de développement des territoires. On le disait tout à l'heure, le département, c'est aussi ce qui donne un peu sa cohérence à un territoire, une dimension qui reste, une dimension humaine. Et il y a des équilibres à gérer. Vous avez parlé de la métropole grenobloise tout à l'heure. Mais le département, notamment, un de ses grands enjeux, c'est de gérer les équilibres urbains-ruraux.
Le département, c'est quand il y a un terme qu'on peut employer pour un département, c'est celui de solidarité. Solidarité humaine et sociale, celle qu'on vient d'évoquer, et puis solidarité territoriale. Le département doit faire en sorte que tous les territoires, qu'aucun territoire ne soit oublié, et c'est notre rôle en termes d'aménagement, en termes d'aide aux communes, de faire en sorte qu'on n'ait pas de zone blanche, comme vous le disiez, entre la métropole grenobloise et la métropole lyonnaise, de faire en sorte que tout le sud-Isère soit pris en considération, zone de montagne, peu peuplée, difficile, que tout le nord-Isère, zone de développement économique formidable, ne soit pas oublié, parce que c'est là notre capacité aussi de développement pour le département de l'Isère. Donc c'est à moi de faire le lien avec l'ensemble des vice-présidents, hein, et ici, vous avez des vice-présidents et des conseillers départementaux qui sont très investis, qui font remonter qu'on arrive à créer cet équilibre.
Alors, une petite question prospective comme ça qui passe à cette occasion. On entend souvent dire que la métropole lyonnaise veut venir jusqu'ici. Et si ça se fait un jour, est-ce que le département devra aussi céder ses compétences?
Aujourd'hui, si vous voulez, la métropole lyonnaise, elle a un périmètre qui est bien fixé. Donc, elle agit à l'intérieur de son périmètre. Avant d'arriver à Bourgoin-Jallieu, il faudra qu'elle mange une partie du département du Rhône, hein, qui fait quand même écran entre la métropole et Bourgoin-Jallieu.
On parle de Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin.
Oui, enfin, si vous voulez, c'est le pôle métropolitain. C'est vrai que la métropole lyonnaise a des visées expansionnistes. Moi, je suis prudent là-dessus parce qu'on peut y voir un intérêt peut-être immédiat. Et encore, il faut être prudent quand on rentre dans une grosse machine comme la métropole lyonnaise. Par contre, ce serait dramatique pour tous les territoires qui se trouvent en périphérie. Donc, c'est pour ça que les départements aujourd'hui ont encore leur signification. On ne peut pas abandonner des territoires. Par contre, il faut que les départements soient forts et montrent leur intérêt et agissent sur les territoires comme le territoire du Nord-Isère, et c'est bien ce que je compte faire.
Voilà, et pour n'oublier personne, il y a aussi des infrastructures, des structures, des travaux à mettre en œuvre. C'est ce que vous avez fait notamment avec le tunnel du Chambon,
oui,
qui va bientôt réouvrir.
Le 17 décembre, si tout va bien, le tunnel sera ouvert, les vacanciers pourront se rendre dans les Hautes-Alpes, pourront revenir en Isère, l'économie sera rétablie, on sera sorti en 18 mois de ce drame humain, parce que ça a eu des conséquences, et c'est là qu'on s'aperçoit de l'importance des routes. Hein. Une route disparaît, tout est bloqué entre deux départements, ça a été un drame économique, ça a été un drame humain pour bon nombre de personnes. Je suis vraiment heureux qu'on ait tout mis en œuvre pour que cela puisse aboutir aussi rapidement.
Les zones rurales, les équilibres avec l'urbain, c'est aussi la modernité qui arrive. Et l'un de vos grands axes, c'est le très haut débit à générer un peu partout.
Oui, le très haut débit qui est quelque chose maintenant d'essentiel dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique ou à titre personnel, les gens souhaitent avoir le très haut débit, ça devient un droit. D'ailleurs, c'est un droit, il faut qu'on le mette en œuvre. Notre département avait pris énormément de retard sur le sujet. On a là aussi une ambition, c'est de faire en sorte que d'ici 2021, 70% des ménages soient couverts et 90% des entreprises aient le très haut débit.
Voilà, dans tous les territoires.
Dans tous les territoires, sur l'ensemble du département, parce que, si vous voulez, le département, lui, aménage là où les privés ne vont pas. Sur la métropole, par exemple, il y a des opérateurs privés qui font le travail en lieu et place des collectivités, parce que, bien sûr, ça rapporte beaucoup plus et plus vite, parce qu'il y a beaucoup plus de monde.
C'est ça, c'est pareil pour la radio.
C'est pareil pour la radio, oui.
Le numérique, vous avez lancé un grand plan numérique dans les collèges. On a des collèges à Bourgoin-Jallieu, à Lille-d'Abo, etc., qui ont été équipés de tablettes, je crois.
Mmh. Oui, parce que le développement du numérique, du très haut débit, doit aussi bénéficier aux collégiens, et les nouvelles technologies doivent être à la portée des collégiens. C'est pour ça que le département, avec l'Éducation nationale, a lancé un grand plan numérique où nous participons, où nous achetons les tablettes pour les collégiens, pour les classes de 5e, je crois, sur un certain nombre de classes, sur un certain nombre de collèges où on expérimente la chose. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la rentrée de voir des collégiens travailler en numérique. C'est remarquable et impressionnant maintenant ce qu'on arrive à faire. Et c'est vrai que pour eux, c'est un développement essentiel pour leur vie de demain, personnelle et professionnelle. En n'oubliant quand même pas le livre, en n'oubliant pas l'écriture, parce que je crois que ça ne se disparaîtra pas.
Si ça marche, l'objectif, c'est d'équiper tous les collèges, toutes les classes ?
Bah écoutez, oui, alors il y aura toujours, et le facteur limitant sera quand même le facteur budgétaire, parce que là, c'est déjà un investissement important du département. Donc, qui sera à poursuivre. Il faut aussi voir si l'État continuera de financer, parce qu'il y a une partie financée par le département, une partie financée par l'Éducation nationale. On sait parfois la volatilité des budgets.
Des budgets et des politiques nationales.
Oui.
Voilà. En tout cas, les collèges, ça reste dans les prérogatives du département et ça restera.
Les collèges sont dans le giron du département, n'en sortiront pas. Nous avons un programme de travaux et d'aménagement des collèges pour 221 millions d'euros. Un collège nouveau sera construit dans le Nord-Isère parce qu'il y a une vraie nécessité. C'est le collège qui sera construit à Champier. Un collège sera revu, c'est le collège de Saint-Quentin-Falavier. Donc il y a une vraie volonté du département de remettre à niveau, mais un peu comme les maisons de retraite, si vous voulez. Je crois qu'on a trop participé les années précédentes à inaugurer des choses grandioses. Et puis à côté, laisser des collèges vieillir, laisser des maisons pour personnes âgées vieillir. Donc il faut qu'on ait, avant de faire des choses grandioses, qu'on ait une vraie remise à niveau de l'ensemble des équipements du département.
Très bien. Et alors, parmi les compétences que vous ne souhaitez pas du tout abandonner, il reste aussi la culture.
Oui, la culture, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Le département, avec d'autres collectivités, assume cette compétence culture. L'année dernière, on a augmenté le budget culture de 12%. Cette année, le budget sera maintenu. On a un vrai programme culturel avec bien sûr tout ce qui est festival, mais aussi une culture pour tous et partout. Donc on s'appuie sur les associations, on s'appuie sur les collectivités, intercommunalités qui sont à nos côtés. Vous savez, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de notre société. Moi, je reste convaincu qu'une des solutions pour vivre mieux demain dans notre pays, c'est de faire en sorte que la culture diffuse dans tous les milieux, parce que la culture, c'est ce qui permet à chacun d'apprécier la diversité du monde, la diversité des hommes, la diversité des arts, et c'est le début de la compréhension de l'autre.
Et c'est aussi plus localement une manière de valoriser son patrimoine, sa propre culture.
Alors ça, c'est, oui, je vous
et
ai
peut-être aussi d'attirer des gens par ici, des touristes.
Tout à fait. Alors, vous avez raison. Sur la culture, il y a l'aspect spectacle vivant. Après, il y a l'aspect patrimoine. On a fait un grand plan patrimoine de rénovation, à 5 millions d'euros sur les 5 ans, pour rénover le patrimoine public et privé. Parce que la culture, que ce soit avec nos musées départementaux, que ce soit avec le patrimoine, que ce soit avec les spectacles qu'on peut avoir, participe aussi au développement de nos territoires par le tourisme. le tourisme, qui est un autre axe économique de développement du département, le tourisme sur lequel nous avons augmenté les budgets. On fait de la publicité, il faut que le département soit connu, reconnu, il faut que les gens viennent en Isère. On a un département qui est magnifique, donc il faut que les gens viennent le visiter et consomment sur le territoire.
J'aimerais qu'on laisse un petit peu le département mais pas de côté, mais pas très loin, et puis qu'on passe à une partie un petit peu plus politique, politicienne. On est dans une période politique assez enthousiaste. Les primaires de la droite vous ont beaucoup occupé. Vous avez été donc responsable de leur organisation dans l'Isère.
Oui.
Et François Fillon a gagné.
Écoutez, François Fillon a gagné, et il a bien gagné. Et je crois que c'était ce qui était important. Il a gagné à 65%, 65%, 66%, une victoire très nette aussi dans le Nord-Isère. Et moi, je m'en félicite. Il fallait absolument que l'on ait un candidat pour la présidentielle de 2017 qui soit bien élu, avec une large majorité, et surtout avec un grand nombre de votants, ce qui a été le cas, plus de 4 millions. Et aussi avec un scrutin qui ne mérite pas de contestation. Et moi, je veux vraiment me féliciter de ce qui s'est passé partout en France, mais particulièrement en Isère, où nous n'avons eu aucune contestation. On a eu la mobilisation de 1300 bénévoles, que je veux encore remercier, parce qu'ils ont tenu les bureaux deux dimanches de suite. On a fait des réunions de formation, on a fait des réunions d'information. Vraiment, tout le monde a participé. Ça représentait un travail énorme depuis le mois de février. Mais aujourd'hui, moi, je ne le regrette pas, parce qu'on a pu rendre un scrutin net et sans bavure.
Alors, il n'était pas forcément votre favori dès le départ, mais ce n'est pas grave.
C'est pas grave du tout. Vous savez, je crois que quand il y a une élection comme ça à l'intérieur d'un parti, on fait des choix d'idées, on fait des choix d'hommes. Pour ce qui concerne les idées défendues par François Fillon étaient très proches de celles défendues par Nicolas Sarkozy, avec des formes différentes. Mais pour moi, ça ne me pose aucun problème, et je ferai demain campagne pour François Fillon.
D'autant qu'il va y avoir un petit peu recomposition de ses idées en cherchant le consensus.
Voilà, on va voir comment les choses vont évoluer. Mais vous savez, moi, j'avais soutenu Nicolas Sarkozy pour deux choses essentiellement. Pour sa position sur la culture, il disait que la culture était quelque chose d'important, et aussi sur ce qu'il disait sur l'identité, parce que je crois que nos racines, notre identité est quelque chose d'important, non pas dans une volonté de repli sur soi, mais dans une volonté de partage. François Fillon a la même posture pour ce qui concerne l'identité, donc j'ai pas de réticence. Et bien sûr, il y a les aspects économiques, il y a les aspects qu'il faudra gérer, mais je crois que sur ces aspects fondamentaux pour la société de demain, c'est quelle société voulons-nous pour demain. Moi, celle que me propose François Fillon me convient.
Alors, le président de la République, quel qu'il soit, au mois de mai prochain, devra compter sur des élections législatives juste après pour avoir une majorité. Et ça vous concerne directement. On disait au début de l'émission, vous êtes député élu sur la 7e circonscription de l'Isère. Vous repartez au combat.
Alors, aujourd'hui, je suis candidat.
Voilà. Avec
aujourd'hui.
Aujourd'hui, pourquoi ça peut changer?
Eh ben aujourd'hui, parce que Nicolas Sarkozy n'ayant pas été choisi par les Français, la loi sur le cumul ne sera pas redébattue, donc je me trouverai devant une question que je devrais me poser, mais je me la poserai en temps et en heure. Aujourd'hui, je suis candidat. On va laisser passer les primaires de la gauche, voir comment les choses vont évoluer, et ensuite nous nous organiserons pour ce combat des élections législatives.
Vous reviendrez nous voir pour nous le dire?
Avec plaisir. To the pain of time.
C'était Jeff Buckley avec Grace. Vous êtes bien sûr Couleur FM sur le 97.1 FM dans le Nord-Isère. Et nous avons auparavant écouté Jean-Pierre Barbier, le président du conseil départemental de l'Isère, qui nous expliquait la politique qu'il mène au profit du département avec sa majorité. Vous l'aurez compris en l'écoutant, la recomposition de la droite est en cours après la victoire de François Fillon aux primaires de la droite. C'est pourquoi vous entendiez Jean-Pierre Barbier exprimer peut-être quelques doutes sur la possibilité de sa candidature aux législatives prochaines. Toutefois, il reste, il nous l'a dit, entièrement candidat aujourd'hui. Lorsque nous avons enregistré cet entretien avec Jean-Pierre Barbier, François Hollande n'avait pas encore annoncé qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Nous allons donc avoir un nouveau feuilleton, très certainement d'élection primaire, au sein de la gauche, pour définir un nouveau candidat. Voilà, politique toujours, mais plus localement, malgré les propos assez rassurants que Vincent Chriqui avait tenus à notre micro il y a quelques semaines à ce propos, cela ne se passe toujours pas très bien entre lui et les syndicats des agents territoriaux de la commune de Bourgoin-Jallieu. Ceux-ci ont manifesté le 28 novembre dernier lors de la séance du conseil municipal pour exprimer à nouveau leur désaccord contre la suppression de la maison des syndicats et aussi leur mécontentement face à la politique de ressources humaines menée au sein de la commune. Affaire à suivre donc. Environnement toujours à Bourgoin-Jallieu, alors que la pollution est revenue sur le Nord-Isère. Jean-Claude Pardal, le président du syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Bourbre, est allé le lundi 28 signer avec la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, la convention du PAPI, le plan d'action et de prévention des risques contre les inondations. Le PAPI, nous en avions parlé avec Vincent Chriqui, vise à prévenir les risques d'inondations sur l'ensemble du bassin versant de la Bourbe, soit quelques 72 kilomètres. Là où environnement et politique se rejoignent un peu, c'est à l'île d'Abos, sans doute, avec les tensions qui se cristallisent autour du parc Saint-Hubert. L'association Forum Citoyen Horizon Nord-Isère, présidée par Jean-Jacques Faure, relayée par une pétition lancée par Laurent Tessier, secrétaire de la section locale du Parti Socialiste et intitulée « Non au massacre du parc Saint-Hubert », l'association donc Forum Citoyen Nord-Isère se mobilise contre la transformation du parc Saint-Hubert décidée par la municipalité en zone commerciale. Et ils ont décidé de déposer un recours. Le même Jean-Jacques Faure, dit-on, aurait décidé de se présenter aux élections législatives, face notamment à Joël Huillier et aussi à Vincent Chriqui. À suivre, là encore. Économie, nos invités politiques nous le disent souvent, le Nord-Isère est généralement un territoire qui gagne avec des entreprises innovantes, avec un marché de l'emploi plutôt meilleur qu'ailleurs. Toutefois, parfois, ça ne se passe pas si bien que cela. Et c'est le cas en ce moment à Saint-Quentin-Falavier, sur le pôle technologique mondial, où les employés de Lafarge-Holcim se mobilisent contre un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoit plus de 100 suppressions d'emplois, alors que de nombreux autres postes ont déjà été supprimés dans leur entreprise. Bon courage donc à eux. Et nous allons terminer par une petite nouvelle bien plus légère et un peu décalée, mais ça fait toujours plaisir quand un enfant du pays réussit quelque part. C'est le restaurant de Guy Savoie à la Monnaie de Paris qui vient d'être couronné par ce qu'on appelle la liste, qui est un classement des 1000 meilleures tables dans le monde. Voilà, sur cette grande nouvelle, cet espace public se termine pour aujourd'hui. Nous remercions encore Jean-Pierre Barbier et nous nous quittons en musique.
This is a song of hope. Glitters is gone, and she's buying a stairway. together. And when she gets there, she knows if the stars are all closed. With a word, she can get what she came for. A stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know, sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird that sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven, and I think you can see that. We'll be right back.
by, I stay away to heaven.